Vous comprenez que quand on vient de vivre ce qu'on a vécu il y a 48 heures, hein, il y a 3 jours, il y a 4 jours, on a du mal à se concentrer sur autre chose. On a du mal à orienter nos discours vers d'autres sujets. C'est difficile parce qu'on n'a qu'une chose en tête. On a deux choses en tête. Il y a l'horreur de ce qui s'est passé. Et la deuxième chose qui nous, cette fois-ci, le premier sentiment c'est l'horreur, le deuxième sentiment c'est le chagrin, la tristesse et la colère. Chagrin, tristesse c'est par rapport à la famille de la victime, mais la colère c'est quoi? C'est qu'une personne ose cautionner ses actes, ose cautionner sa folie, mais malheureusement le mot folie n'a pas été reconnu. Le mot démence n'a pas été reconnu. Cette personne ose cautionner ses actes au nom de notre dîne. Et si on compare le mode de vie du prophète alayhi salatu wassalam dans sa manière d'agir avec sa femme, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses voisins, là vous pouvez dire que pour l'instant il n'y a aucun rapport avec ça, avec les gens qui le combattaient aussi, parce que lui il se croyait un héros, il va venger les enfants palestiniens en abattant d'autres enfants. Il se croyait quoi, un Superman, un Batman, un musulman, je ne sais pas, c'est quoi son histoire, c'est quoi son problème, c'est quoi son bug lui, d'accord? Quand nous voyons comment le prophète alayhi salatu wassalam agissait même avec ceux qui voulaient sa mort, ceux qui essayaient de l'assassiner, ceux qui ont essayé de l'empoisonner, et qu'on compare avec l'agissement de cette personne, on se dit que attention, là, on ne parle plus de religion, là. Là, c'est le ciel et la terre. Là, ces deux points totalement, on ne dit pas contradictoires, mais opposés. Ce qui fait qu'on ne peut, un esprit clair, un esprit sensé, qu'il soit religieux ou non, que la personne soit musulmane, chrétienne, juive, athée, ou quoi que ce soit, bouddhiste ou autre chose, qui connaît au moins un peu la religion musulmane et qui compare avec ce qui s'est passé, alors cette personne sensée, il va comprendre qu'il n'y a strictement rien à voir. Si on avait le temps, on vous citerait tous les actes, toutes les actions qu'il y a eu à l'époque du Prophète sallam, les différentes étapes de la sirat, des khulafa'i rachidin, la vie d'Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu ta'ala, anhum ajma'in. Il n'y a rien. Prenez tous les livres de tarikh, de sirat, les récits authentiques, les récits hassan, les récits da'if, vous n'allez rien trouver d'équivalent. Tuer un enfant, jamais de la vie, avec un grand G, jamais de la vie. Notre prophète alayhi salatu wassalam n'a levé la main sur un innocent. Jamais notre prophète alayhi salatu wassalam n'a frappé une de ses épouses. Jamais notre prophète alayhi salatu wassalam n'a frappé un innocent, n'a frappé un enfant. Lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam, là il y a des gens qui disent ouais mais les musulmans toujours en train de dire que une religion de paix et tout, ouais mais il y a eu des guerres, il y a eu fusion de sang, oui il y a eu Badr, oui il y a eu Uhud, oui il y a eu Khandaq, il y a l'Ahzab, il y a eu Hunayn, il y a eu ces batailles, mais c'était la guerre mes chers frères. Si tu ne tues pas ton ennemi, il te tue deux fois. C'était la guerre, ils ne rigolaient pas les gens. Les Quraysh, ce n'étaient pas des rigolos. C'était pas, ils ne voulaient pas juste, ce n'étaient pas des lance-pieds, ils voulaient tuer. Regardez comment ils ont assassiné Hamza. Vous croyez qu'ils rigolaient là-bas? Si tu ne les tues pas, ils viennent, ils envahissent Madina, ils tuent. Ils violent les femmes, ils tuent les enfants, ils tuent tout le monde. Ils voulaient tuer Nabi Karim, alayhi salatu wassalam, combien de fois? Est-ce que vous connaissez une civilisation où il n'y a jamais eu de guerre? Dans tous les continents, il y a eu des époques, là de nos jours le monde connaît stabilité, enfin stabilité entre guillemets, ce qu'on appelle, ce qu'il présente comme stabilité, mais tout ce qu'il y a comme background, ça, on ne sait pas. Mais dans toutes les civilisations, il y a des affrontements. Un peuple veut envahir un autre peuple, on se laisse faire, dit non, on est des gentils, on va aller jeter des fleurs. Donc il y en a qui disent que oui, mais il y a eu des guerres. Oui, il y a eu des guerres. Il y a des versets qui disent que combattez-les, tuez, etc., ne les laissez pas, etc., etc. Oui, il y a ces versets. Mais ces versets-là, c'est en temps de guerre. Mais le musulman de base, il n'y a pas besoin d'être un grand savant. Un musulman qui a un minimum de connaissances sur sa religion, il distingue des situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est battu et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas battu. Quand notre prophète était attaqué, le prophète sallam se défendait. Quand le prophète sallam habitait dans une même cité avec des gens avec qui il y avait des accords, il n'y avait pas de guerre. Qui a dit que les musulmans ils détestent le Yahoud, ils doivent tuer un Yahoud? Non, Wallah. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas cohabité dans la ville sainte de Madina avec trois tribus Yahoud, les Banu, Qaynuqa, Nadir et Quraïda? Il y avait un acte de paix, de non-agression. Et plus encore, pas uniquement non-agression, ça c'est la partie du din que les ennemis de l'islam, ceux qui veulent donner une mauvaise image, ça ils veulent pas mettre en avant, non. Ils veulent mettre en avant les versets où il y a djihad, hein, uqtulul mushrikin, etc., etc. Mais en mettant ces versets hors contexte. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont un objectif précis. Parmi les musulmans, ils ont une idéologie. C'est exactement comme le mubtadi' et le fasiq. Le mubtadi', le bidati, comme on dit ici, le bidati, il veut faire quelque chose, il veut se bidatler. Alors il va trouver un mufti, il va trouver une version, il va chercher quelque chose pour cautionner sa bidat. Le fasiq, il veut faire son péché. Mais il étouffe là, et quand les gens disent que c'est haram et tout, il va essayer de trouver quelque chose qui prouve qu'il peut. Je discutais avec un jeune que je vois sur Médine. Muslim dans le panique, etc., etc. C'est compliqué ça, un rappeur qui vient à La Réunion, qui est musulman, qui porte un nom de musulman, qui est barbu, hein, dont le groupe porte le nom Médine, Vilsan, Aoud, Billah, Allah Yahdi. Il y a des gens qui disent que oui, mais ce genre de musique, c'est possible, ils vont chercher Qarda, oui, a dit Jean-Pierre, je ne sais pas qui a dit, l'autre savant, l'autre. Yani, le fasiq, il veut faire son péché. Il veut râler son joint, lui. Il veut fumer sa cigarette, il veut écouter sa musique, il veut écouter son rap, il veut sortir avec le tantine, il veut faire ça. Et il sait que c'est pas bien, mais il va essayer de trouver, il faut que m'y trouve parmi tous ces gens-là quelqu'un qui me dit que non, yani, ça va, c'est possible, à notre époque, vu le contexte, si tu fais pas ça et tout, vaut mieux ça que ça. Ça, c'est le fasiq. Le bidati, pareil, il cherche une voie de sortie pour cautionner sa bid'a. Le soi-disant djihadiste, d'accord? Il a trouvé un super mot dans la religion, la djihad. Pour lui, il est content, là. Il a trouvé ce mot, pour lui, c'est, il veut quelque chose, lui. Il a besoin d'un pays, il a besoin d'un pouvoir, il a quelque chose à sa tête. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller à la pêche. Ou alors à la chasse, à la cueillette. Il va cueillir des champignons. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les versets qui parlent de la guerre. Les versets qui ont été révélés pendant la guerre. Je vous donne un exemple. Vous savez, c'est quoi, Salatul Khawf? La prière de la peur. C'est quoi la prière de la peur? C'est qu'on a peur qu'un ennemi nous attaque? Non, non. La prière de la peur, c'est quand on est en guerre. Quand on est en guerre, que les deux ennemis, les deux armées, s'affrontent, Allah Azza wa Jalla a révélé des versets qui expliquent aux musulmans que quand les armées sont en train de s'affronter, malgré ça, attention, n'abandonnez pas la salah. N'abandonnez pas la salah. Comment il va faire? Il y a un groupe qui commence, ensuite il s'arrête. Il retourne au front, et l'autre groupe prend le relais, et ainsi de suite. Salatul Khawf, on appelle ça. Mais pourquoi, regardez l'énormité de l'amalgame entre versets de terreur, de période de guerre, et versets de période de paix. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux musulmans, ouais, mais faites Salatul Khawf, pourquoi tu viens à la mosquée? Fais deux rakat et tu y vas, et puis tu reviens. Yannick, mais c'est hors contexte. La Salatul Khawf a été révélée parce que quand on est en guerre, que l'ennemi veut te tuer, il y a une manière d'agir. Oublie pas ton Seigneur, tu fais la prière, mais tu vas pas passer une heure à la mosquée. Donc attention, fais une salade brève et retourne au front. L'essentiel, c'est de protéger ta famille, ta femme et tes enfants. Yani, dans contexte de guerre, manière d'agir est différent qu'en période de paix. Vous trouverez un fou qui vient faire Salatul Khawf ici et Salatul Isha? Personne ne l'a jamais fait. Mais pareil, pourquoi mélanger les versets qui ont été révélés lorsque le musulman est attaqué, lorsqu'il y a la guerre, avec les versets classiques en temps normal quand il n'y a aucun problème? Ça, il faut bien comprendre. Et avec cet événement qui s'est passé, hein, une personne donc qui tue un rabbin et trois enfants, et qui avait tué avant ça trois soldats, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué combien de personnes? 7 personnes. Et il se dit quoi? Djihadiste? Il se dit quoi? Salafiste? Intégriste? Fondamentaliste? Activiste? Quoi encore? D'autres trucs avec des... Les isla, c'est terrible de nos jours, ça. Hein. Ces suffixes-là, c'est des suffixes ajib. Alors, que cette personne sache, si elle se pense vraiment pour un grand religieux, eh bien, c'est trop tard, de toute façon, ça l'est. Awwalu shay'in, le premier péché qui sera ramené auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour des comptes, c'est quoi? Ad-dima. Ad-dima, c'est quoi? C'est le sang. À tel point que notre prophète alayhi salatu wasalam explique, c'est une image très forte, on avait expliqué ça aux élèves, hein, bon, quand c'est des petits, ils ne comprennent pas, c'est comme limite film d'horreur, que la personne qui a été tuée de manière injuste dans ce monde se présente devant le tribunal d'Allah azza wa jal, si sa tête on a sauté sa tête et décapité, il se présente avec sa tête dans sa main, et de l'autre main, il tient la main de son assassin, et demande à Allah azza wa jal, Ya Rab, salhu fi ma qatalani. Oh Allah, demande-lui pourquoi il m'a tué. Et d'autres personnes se présenteront devant le tribunal d'Allah avec des plaies ouvertes, des plaies qui saignent encore, des gens qui ont été tués injustement. Et ça, c'est les premières questions concernant les relations entre les gens. Pourquoi est-ce que une personne a pris une âme de manière injuste? Cette âme-là, qui l'a créée? Qui l'a créée? C'est Allah. Ce corps, que ce soit un corps de musulman, de yahoud, de nasara, de mushrik, ou de personnes qui ne croient à rien du tout. Qui a créé ce corps? Qui nourrit ce corps? Qui lui donne sa subsistance depuis et qui le protège depuis qu'il est petit jusqu'à sa mort? C'est Allah Azza wa Jal. Bismillahir Rahmanir Rahim. La clémence d'Allah. Il y a une clémence pour les musulmans, ceux qui ont eu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, le joie des comptes. Mais il y a également une clémence d'Allah Azza wa Jal pour la totalité de la création. Cette personne-là, on n'avait jamais expliqué, bismillahir Rahmanir Rahim, qu'il y a deux nuances dans Ar-Rahmanir Rahim, que notre prophète alayhi salatu wassalam, donc pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, même quand il a envoyé des sahabas en guerre, notre prophète alayhi salatu wassalam faisait un briefing, il expliquait: ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les innocents, ne tuez pas celui qui s'est détaché de la ville. On pourrait appeler ça un asset, hein, quelqu'un qui a quitté la ville, qui va habiter, qui s'est isolé de la population, quelqu'un qui n'est pas engagé, un civil, qui n'a rien à voir avec la guerre, qui n'est pas là pour se battre. Le prophète a interdit aux sahaba de tuer ces personnes. Alors maintenant, comparer, est-ce que c'est comparable? On ne compare pas ce que cette personne a fait et comment le prophète agissait en temps de guerre. Alors est-ce que là, à Strasbourg, à Toulouse, est-ce que à Toulouse, on était en période de guerre? La wallah. Jamais, un sahaba, un tabi'in, ceux qui ont suivi al-Nahj al-Nabawi, n'ont posé la main ou une épée en période de guerre sur une femme et sur un enfant, sur un innocent. Alors que si on compare avec les guerres qu'il y a de nos jours, regardez dans différents pays du monde, quelles que soient les régions, on ne parle pas de politique, la plupart des personnes qui meurent de nos jours, ce sont des innocents. Rarement les obus, les bombes, les trucs, etc. touchent l'armée ennemie. Sinon ça se sait qui a été tué, combien de soldats. Mais les innocents, il y a 80% d'innocents qui meurent sur 20% de combattants. Wallahu musta'an. Alors que le prophète, il a donné des consignes particulières. Donc ce gars-là, il est en décalage, mais total, complet. Alors ceux qui persistent à dire que c'était un islamiste, mais franchement, yani, soit ils manquent de connaissances, ils sont totalement incultes, hein, il y a une image qu'ils espèrent donner de notre dîme, mais vous savez, ces mots, ces paroles, ces propagandes, ces articles de presse, ces documentaires, etc., tout ce que les gens, les a'da, ceux qui veulent du mal à notre dîme, qui veulent donner une mauvaise image, ils vont le faire, ils vont essayer de le faire. Allah Ta'ala l'a annoncé, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, par leur parole, par leur bouche, par leur discours, ils veulent atténuer la lumière d'Allah. Wallahu mutimmu nurihi wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Et Allah, vous croyez qu'il accepte? Ça c'est son dîn, ça c'est son message, le dernier message jusqu'à la fin des temps, dernier prophète, dernière parole, dernière révélation, la parole d'Allah qui est mahfouz. Allah Ta'ala ne laissera pas, hein, l'objectif de ces gens atteint. Malgré ça, on sait que ça c'est le dîn d'Allah. Mais sachez que ces discours sont en contradiction avec nous, le principe de notre dîn, et ces agissements-là sont en total désaccord avec al-Nahj al-Nabawi. Maintenant, ça dépend, soit la personne veut suivre le mode de vie du Prophète, soit il a autre chose en tête. Et là, c'était plutôt totalement autre chose. Hala. Également, lorsque Allah Ta'ala dit, hein, qu'on parle, on ne va pas être trop long, hein, mais quand même, il faut parler de ça, parce que ça c'est important, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on explique, que nous-mêmes nous soyons persuadés. Il y a des fois, à force d'entendre des choses, des documentaires, parfois, na'ouz billah, un musulman peut se dire que, ben, est-ce que c'est vrai, peut-être que dans ma religion, il n'y a que du sang. Et parfois, il y a des gens qui font des parallèles entre la religion musulmane et la religion chrétienne catholique. Dans la religion catholique, on a déjà dit ça, Dieu est amour, il n'y a que de l'amour partout. Chez les musulmans, il n'y a que de la guerre. C'est parce que vous avez été fouiller les versets de guerre pour les mettre en avant. Mais sinon, regardez le verset qu'on va commenter, Inch'Allah, la prochaine fois. Allah Ta'ala, il est clément, il pardonne, et Allah est Wadud. La traduction exacte de Al-Wadud, c'est le maître, celui, le pardonneur, le tout affectueux. Allah est Rahman, Rahim, Wadud. C'est beaucoup plus que la notion d'amour. Ça, c'est si Allah a rendu une âme sacrée, l'âme de l'innocent est sacrée. Donc, désacraliser ça, c'est aller à l'encontre de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, on a lu pas mal, enfin, ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu pas mal de statuts où des gens y citaient. Alhamdulillah, ces derniers temps, il y a eu des réactions, des gens qui citaient les hadiths concernant le respect des religions, le respect des Yahoud et des Nasara. Et effectivement, notre prophète alayhi salat wa salam a cité le respect, a expliqué le respect que le musulman doit avoir pour les autres religions. Alors maintenant, il y a des gens, maintenant c'est du côté du musulman, il y a le musulman aussi qui manque un peu de connaissances. Il dit que oui, mais respect de ces gens-là, mais comment respecter alors qu'en Palestine, en Afghanistan, en Tchétchénie, il y a des musulmans qui sont tués, massacrés tous les jours? Comment continuer à respecter ces gens? Mais si on adopte cette manière de voir les choses, cette conception des choses, ben c'est exactement ce que ce gars a pensé, ce Mohammed là, d'accord? Et malheureusement, ça me fait mal au cœur qu'il s'appelle Mohammed. Tout comme ça me fait mal au cœur que Médine porte le nom de Médine alors que c'est un groupe de haram, un groupe de musique, d'accord? Et donc, voilà, ceux qui disent que oui, mais ils ont tué des musulmans là-bas. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas machin avec eux? Je vous pose une question, d'accord? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a puni les Banu Qaynuqa' par rapport aux mauvais agissements des Banu Qurayza? Ou les Banu Qurayza par rapport aux mauvais agissements des Banu Nadir? C'est-à-dire qu'il y avait trois tribus, Yahoud, à Madina. Et à différentes époques, il y a eu des trahisons. Mais notre prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais puni une tribu par rapport aux mauvais agissements d'une autre tribu. Ces gens-là, ce sont des gens à part. On ne mélange pas. C'est pas parce qu'ils ont la même religion que si quelqu'un à l'extrême est vous a fait du tort, je vais me venger sur une personne à l'extrême ouest. Ça, c'est un raisonnement complètement contradictoire. Celui qui raisonne comme ça, c'est quelqu'un qui n'a aucun, yani, il n'a pas un pourcentage d'intelligence. C'est quelqu'un qui n'a strictement rien compris. On parle même pas de sentiments humains. On parle d'esprit courant. Donc, en plus de ne pas être en conformité avec notre dîn, cet agissement est totalement contradictoire à la logique humaine, totalement incohérent. Et maintenant, pour terminer, que dire? On a expliqué que, tout ce qu'on a dit, qu'on parle d'enfants. Là, on pouvait parler des trois soldats, du rabbin qui a été tué, ça c'est un point. Mais maintenant, pire encore, lorsqu'on parle d'enfants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, citez-moi un récit où n'a pas ça. Na'oudzubillah, tu es un enfant, na'oud. C'est inimaginable. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, sa relation qu'il avait avec les petits. Le prophète sallallahu alayhi wasallam avait à son service Anas ibn Malik, qui était, les parents ont mis Anas ibn Malik pour être proche du prophète sallallahu alayhi wasallam, pour l'aider. D'accord? C'était un honneur pour cette famille, toute cette famille, d'accord? Anas dit que pendant 10 ans, j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wasallam, il ne m'a jamais, bien sûr, frappé. Il n'a jamais haussé le ton. Il ne m'a jamais fait de reproche pour quelque chose que j'ai fait. Pourquoi tu as fait ça? Ou pour quelque chose que j'ai oublié de faire, pourquoi tu n'as pas fait ça? Regardez comment le prophète Sam agissait avec les enfants. Ça, c'est un enfant musulman. Allez, vous allez dire, oui, mais un enfant yahoud, il y a des exemples. Oui, il y a des exemples. Le prophète Sam avait dans son voisinage un enfant de confession juive qui était malade. Hadith, c'est authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam est parti rendre visite à cet enfant de confession juive qui était malade. Subhanallah. Rahmatan lil alamin. La bonté, la grandeur d'âme de notre prophète alayhi salatu wassalam, et voyez ce que cet assassin, ce criminel a fait. C'est pour ça que on ne veut plus entendre parler du mot islam. Parler d'un français d'origine algérienne, bon, là aussi ça fait un peu divergence. Dites que c'était un criminel. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a... cet homme n'a pas le droit d'être fou? Est-ce que de nos jours il faut avoir le droit d'être fou? Pourquoi est-ce que ce Norvégien qui avait tué 70 personnes, il me semble, les experts psychiatriques ont dit qu'il était dément, il était atteint de démence. Mais qu'on dise que cet homme-là était un fou, qu'il était dément, mais qu'on arrête de dire que c'était un musulman, un islamiste, là, wallah. Parce que si c'était cette religion qu'il croyait servir, alors là, il était complètement opposé. Allez, même, j'ai lu une analyse d'un politicien aujourd'hui qui disait que oui, allez, s'il pensait, si selon lui, il voulait punir la politique française, on ne parle pas de politique bien sûr, par rapport à l'Afghanistan, ce genre de pays, il voulait donc aider la position des musulmans, mais ne sait-il pas qu'avec ce genre d'agissement, c'est le contraire qui va se passer. C'est l'après Toulouse qu'Allah nous protège. J'espère qu'on ne parlera pas d'avant Toulouse et d'après Toulouse, parce que ce qui risque d'y avoir en retour. Wallah Moustan, regardez depuis combien de temps? Depuis le 11 septembre. On n'arrête pas de faire des discours qui vont dans ce sens. On a dit tout à l'heure en introduction, quelle était la relation entre musulmans, yahoud et nassar. On essaie de faire comprendre, d'éclairer l'esprit des gens par rapport au djihad et d'enlever ces fausses idées que certains extrémistes, quand, allez, si on adopte le mot, le jargon, ils essaient de mettre dans la tête des gens et la vision que les médias essaient de donner de notre religion. On essaie de rétablir la vérité. On fait des visites de masjid. On fait des cours pour les élèves du collège, du lycée, des profs qui nous convoquent pour dire expliquer c'est quoi l'islam. On essaie de rétablir la vérité, d'expliquer que c'est une religion de paix et d'amour. Et avec un acte de ce genre, c'est comme si qu'à chaque fois on refait un bond en arrière. Allahu musta'an. Ce qui me chagrine profondément, c'est que vous savez, cet homme-là, il dit ça. Il dit appartenir à tel mouvement, djihadiste ou autre chose. Mais s'il avait dit que je fais partie des intégristes tamouls. Il y a ça au Sri Lanka, un groupe d'extrémistes tamouls. Il y en a, oui ou non? Il y en a qui font des attentats aussi. S'il l'avait dit à travers une porte, est-ce qu'on aurait condamné tous ceux qui font, tous ceux qui sont de cette religion? C'est-à-dire que quelles que soient les phrases qui étaient sorties de sa bouche, pourquoi est-ce qu'on le croirait à 100% quand quelqu'un est prêt à tuer 3 enfants? Est-ce que son discours, quand on voit que ses agissements sont incohérents, est-ce que son discours doit être cohérent? Ce qu'il dit, est-ce qu'on va le croire? Si il avait dit que moi je fais partie de l'IRA. Vous savez c'est quoi l'IRA? Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Hein. C'était les Irlandais, les protestants, il me semble, non? C'était des groupes d'extrémistes. Ce qui s'est passé entre catholiques protestants en Irlande, maintenant ça s'est calmé, là, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, d'accord? Si c'était proclamé de ce groupe, est-ce qu'on l'aurait cru? Non. Mais pourquoi quand il se dit islamiste, oui, c'est vrai. Allah musta'an. Khair, inshallah. Donc, mes chers frères, la ilaha illallah, on a besoin de se persuader nous-mêmes et on a besoin de faire passer ce discours à nos frères et sœurs, à nos enfants. On a passé beaucoup de temps à la madrasa, un cours entier, un après-midi, pour rappeler aux enfants quelle est la notion de muhabba qu'il y a dans notre dîn. Et la notion de vengeance. Alors, cette personne dit qu'il veut se venger. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, envoie des sahaba enseigner à une tribu le dîn de Bi'ri Ma'ouna, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu une délégation qui voulait que le prophète alayhi salatu wassalam envoie des gens pour enseigner le Coran et la religion à une tribu. Le prophète alayhi salatu wassalam sélectionne des sahaba qui sont tous huffaz le Coran, qui connaissaient le Coran par cœur. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ceux qui connaissaient le Coran par cœur, c'était une petite poignée. Le prophète alayhi salatu wassalam les envoie pour enseigner le Coran à cette tribu. Et c'était un piège. En chemin, ils ont été tous massacrés, tous, sans exception. C'est un événement qui a beaucoup, beaucoup attristé le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, à un tel point que tous les matins, quand il faisait sa prière, il envoyait la la'na, il faisait des doigts contre ces gens-là. Qu'Allah maudisse, qu'Allah punisse, qu'Allah règle le compte à ces personnes. C'était une des pires tragédies de l'histoire de l'islam, parce que en plus d'avoir tué des gens qui étaient partis enseigner la religion, des gens qui n'avaient rien fait, en plus c'était des huffaz du Coran, des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Est-ce que notre prophète alayhi salatu wassalam a monté une armée pour dire allez voir cette tribu, allez tuer leurs femmes et leurs enfants? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous voyez, situation extrême, injustice extrême subie par les musulmans, et comment le prophète alayhi salatu wassalam agissait. Maintenant, est-ce que ces gens-là, ceux qui ont ce genre de discours, est-ce qu'ils veulent suivre la sunna? Est-ce qu'ils veulent suivre notre dîn ou ils ont autre chose? Est-ce qu'ils ont compris que être musulman, c'est que être barbu, que mettre une djellaba, un thob, un kafni, un kurta, quelque chose à faire? C'est pas ça! C'est un état d'esprit. C'est, subhanallah, c'est une philosophie. C'est l'enseignement d'Allah Azza wa Jalla. Comment vous devez vivre dans votre religion avec vos co-religionnaires? Comment vous devez vivre avec les gens qui ont d'autres religions, les gens qui n'ont aucune croyance? Ça, c'est l'enseignement extrêmement riche de notre dîn et qui a été vécu, qui a été mis en pratique par notre prophète alayhi salam. C'est ça la sunna. Et c'est pas ce que ces gens-là, malheureusement, ils l'ont fait. Hada. Et vous savez, notre prophète alayhi salam, combien de fois on a essayé de l'assassiner? L'abid, le sorcier. La femme qui a mis du poison de le manger, dans la viande. Celui qui a été voir le prophète avec une épée. Qui te protège maintenant? Elle dit c'est Allah. Il répète, qui te protège si je te tue là maintenant? Elle dit Allah. Et après l'épée est tombée, le prophète ne l'a pas exécuté, ne l'a pas tué, ne s'est pas vengé. Le prophète il retrouve les vieux ennemis de Makkah lors de la conquête de Makkah. Le prophète ne les a pas tués. Ça c'est l'agissement, ça c'est les relations entre le prophète et ses ennemis. Comparez ça. Et quand on va arriver à ce que cette personne a fait, comprenez qu'on doit enlever complètement de la description de cette personne le mot islam. Qu'Allah Ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah Ta'ala donne l'izzah, l'honneur à cette umma et qu'Allah nous protège de toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises paroles et tous ces discours qui ont pour but, ces agissements qui ont pour but de donner une mauvaise image de notre dîn. Wa ma tawfiqi illa billah. Et il y a deux phrases qu'on avait fait le rassemblement. Il y avait Barachois un rassemblement. C'était important d'y être. Il y avait, alhamdoulilah, quelques savants, il y avait une machallah, les musulmans sont mobilisés. Il y a quelques jours, il y avait un rassemblement de la communauté juive en mémoire de ces personnes qui ont été tuées. Et il y avait les médias, il y avait la radio et tout. Et la question qui revenait avec toutes les radios, on ne va pas citer les radios, les trois radios les plus importantes de la Réunion, ils disaient à chaque fois, pourquoi vous êtes là? Pourquoi il est important que la communauté musulmane soit déplacée ce soir? La réponse qu'on donnait, c'était, on n'est pas venu ce soir à cette cérémonie de commémoration parce que l'assassin est un musulman. Non! Même si ces enfants-là avaient été tués par un néo-nazi, on serait là quand même. Parce que c'est un drame humain. Quand on tue des enfants, on n'a pas regardé est-ce qu'il a une kippa sur la tête, ou est-ce qu'il a un bonnet, ou est-ce qu'il porte une croix, ou est-ce qu'il porte un turban. Et ça, j'ai fait écrire à mes élèves dans les cahiers, écrire au tableau, quand un papa pleure la mort de son enfant, on ne regarde pas s'il a une kippa, s'il a un bonnet, un turban sikh ou une croix. C'est un père qui pleure la mort de son enfant. Nos cœurs aussi doivent pleurer. Ça, c'est la rahma qu'Allah Ta'ala a mis dans le cœur de chaque personne. Et la deuxième chose qu'on doit bien retenir, le sang d'un innocent ne peut en aucun cas être versé pour compenser le sang de notre innocent. Matawfiqin la billah, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.